Je voudrais qu'on puisse faire trois lectures d'introduction, trois courtes lectures d'introduction. Ce matin, on ne va pas continuer dans la série dans laquelle nous sommes depuis quelques semaines déjà, mais de temps en temps, le Seigneur nous invite aussi à considérer d'autres choses. On y reviendra, vous inquiétez pas. Je voudrais qu'on puisse lire dans le premier texte, dans le psaume, chapitre 33, le verset 18. Et pendant que vous cherchez cela, je vous donne les salutations des frères et sœurs de Nogaro, de Condon et de Hoche aussi, puisque la semaine dernière nous étions donc à Nogaro pour toute la journée, le matin pour le culte et l'après-midi pour des baptêmes. Deux baptêmes, deux personnes qui se sont engagées à suivre le Seigneur et c'est toujours une joie. On a fait deux semaines en arrière ici, puis la semaine dernière à Nogaro. Et je peux vous dire, avec ce que Dieu fait en France dans les églises, toutes les semaines on pourrait aller dans une église où il y a des baptêmes. Parce que toutes les semaines il y a des baptêmes quelque part. C'est merveilleux ça, non? Les médias vont pas parler de ça, parce que ça les intéresse pas. La laïcité oblige. Mais je peux vous dire que l'Esprit de Dieu agit, il convainc les cœurs, il sauve encore des pécheurs aujourd'hui, et que son nom soit béni. On se réjouit vraiment dans ces moments d'entendre ces témoignages. Les salutations de notre sœur, Madame Molinier. Ouais. D'accord. Bon, on continue de la porter dans la prière. Voilà. Mais on est unis d'un même cœur par le Saint-Esprit. Psaume 33, verset 18. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre. Au milieu de quoi? Au milieu de la famine. On va lire le psaume 37, donc quelques pages plus loin, verset 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Amen. Vous avez remarqué le point commun? J'ai assez insisté dessus. Je voudrais lire le troisième texte, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 10. Alors, je vous signale qu'il y a deux textes qui n'étaient pas prévus dans mes notes, hein, mais que le Saint-Esprit a déposé sur mon cœur pendant ces moments-là de louange. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Trois textes. Deux dont le rapport est assez évident l'un avec l'autre, mais le troisième, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce que l'histoire de la famine vient faire avec une histoire de forteresse? Avec une histoire de forteresse qu'il faut abattre. Eh bien, tout cela se rejoint parce que, tout simplement, le Seigneur est celui qui, comme on l'a lu, il permet qu'on ait un héritage spirituellement parlant. Je parle pas de l'héritage que l'on aura peut-être un jour grâce à nos parents. Je parle de l'héritage spirituel. Avec la parole de Dieu, nous avons un héritage spirituel incroyable, inimaginable. Et on est toujours surpris et béni de réaliser tout ce que Dieu nous a promis, tout ce que Dieu nous a déjà donné. Nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est ce que nous rappelle l'apôtre Paul. Et nous avons besoin de méditer et de laisser la parole de Dieu rappeler ces choses à notre cœur. Que nous sommes bénis. Mais parfois, le problème qui se passe, c'est que la bénédiction, elle reste dans le ciel. Dieu nous a déjà bénis, Dieu a fait tout ce qu'il faut, mais il y a une forteresse de raisonnement et de pensée, et il y a des murailles qui sont là et qui nous empêchent, qui nous font qu'on est dans la famine, qui nous font qu'on est dans la difficulté, qu'on est dans la disette, alors que le Seigneur nous a déjà bénis. Je faisais un listing de toutes les grâces du Seigneur. Il est question de l'amour éternel du Seigneur, d'abondante joie devant sa face, une consolation éternelle, une source abondante de paix et de fidélité, etc., etc. Tout ce que le Seigneur nous a donné, ça c'est notre héritage. Mais est-ce qu'on peut dire que je suis toujours, j'ai une paix éternelle, continuellement? Ben, il y a des fois où je suis moins en paix que d'autres fois. Parce que, des fois, c'est les raisonnements ou les circonstances font qu'il y a des murailles qui se bâtissent entre la bénédiction de Dieu et ce que je vis. C'est vrai ou c'est pas vrai? On a tous vécu des moments comme ça. Mais Dieu nous rappelle que ceux qui sont intègres, ceux qui craignent l'Éternel, son œil est sur eux. Et même dans la famine, le Seigneur est capable de les bénir. Même si les circonstances de la vie sont totalement compliquées, le Seigneur est capable de bénir ces personnes. Et il y a un exemple flagrant que l'on trouve. Alors c'est pour ça qu'on quand même on se rapproche de cette étude que l'on fait sur les rois, parce qu'on va lire quand même dans 2 Rois chapitre 6. Mais on va pas étudier un roi en particulier, on va étudier une situation de famine et comment Dieu a changé, transformé une situation de famine pour amener une bénédiction. Dans 2 Rois chapitre 6 verset. Alors, le verset. Verset 24. Il est question de la ville de Samarie. Vous savez, on a resté à Salomon qui régnait sur un royaume, mais suite à Salomon, il y a eu son fils Roboam et qui a pris de mauvaises décisions qui ont fait que le royaume s'est divisé en deux et un des royaumes a choisi Samarie comme capitale. Sauf que ce royaume, tous les rois qui se sont succédés sur le royaume d'Israël avec la capitale Samarie, ils ne respectaient pas Dieu du tout. Et le résultat, c'est que ça a entraîné toutes sortes de dérives et de situations compliquées. Et là, eh bien, c'est simple, l'ennemi est tout autour de la ville, ils sont enfermés dans des murailles et ils ne peuvent pas sortir, et c'est la famine. Il y avait tout simplement le siège. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Et il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 sicles d'argent. Et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 sicles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve, ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je » Avec le produit de l'air, c'est-à-dire du blé ou du pressoir, de la vigne. Et le roi lui dit, « Qu'as-tu ?» Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. » Vous lisez bien, hein, c'est ce qui a marqué. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements, on le comprend, en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, c'est le prophète, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager fût arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voulez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête ?» Voyez-vous, pardon, que ce fils d'assassin envoie quelqu'un. « Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte, repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui ?» Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui, et disait, « Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je encore à espérer de l'Éternel ?» Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un sicle, et deux mesures d'orge pour un sicle, à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens, et s'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée des camps des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël. Il a pris à sa sorte contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était. Ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en importèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Ils partirent, appelèrent les gardes de la porte auxquels ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y avait personne. » On va au verset 12. « Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » Et l'un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Et envoyons voir ce qui se passe. » On aurait fait pareil à leur place. Hein. On prit 2 chars avec les chevaux. Le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens. « Allez, voyez. » Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements, d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent, le reportèrent au roi. Et le peuple sortit, pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle. Ça vous rappelle rien ? Selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Amen. Une longue lecture qui était importante, mais qui retrace cet événement qui s'est passé, qui nous montre une situation où des gens sont enfermés, il y a des murailles, il y a donc une forteresse qui est là, et la forteresse, si ça peut représenter une protection à certains moments, ça peut aussi représenter une séparation de la grâce et de la bénédiction de Dieu. On est d'accord que quand il y a un ennemi qui est là autour et qu'il y a une forteresse, ça rassure quand même. Mais le résultat que l'ennemi est là autour, c'est qu'il y a la famine, et une famine telle que les personnes qui sont dans ce lieu, certaines personnes en tout cas qui sont dans ce lieu, en sont venus à manger des enfants. Vous imaginez l'horreur, jusqu'où ils en étaient réduits. Et pourtant, c'est ce qu'ils vivaient. Est-ce que dans le camp des Syriens, il y avait les trésors, il y avait la nourriture, il y avait tout ce qu'il fallait ? Oui, on est d'accord ? Et c'est intéressant de s'arrêter un petit peu sur les différents protagonistes de ce récit pour s'apercevoir comment est-ce qu'ils ont réagi et de nous inviter, nous, à réagir de la bonne façon. Déjà les 2 femmes, ce qu'on pourrait dire les femmes folles, hein, parce qu'à certains moments, quand on est privé de nourriture, ben, on rentre dans un état de folie, et c'est exactement ce qui s'est passé. Pour satisfaire leur faim, elles en sont venues à tuer l'un de leurs enfants. Enfin, au moins une l'a fait, et l'autre n'a pas pu le faire. Mais elle a mangé l'autre enfant, c'est ce qui est aussi horrible. Chacune de ces personnes que l'on va voir, en fait, est enfermée dans des murs. Il y a les murs, la forteresse, mais il y a des murs de raisonnement qui sont là et qui font qu'ils sont privés de la bénédiction. Est-ce que ça valait la peine de sacrifier leur enfant ? Est-ce que ça valait la peine ? Bon, déjà, d'un point de vue humain et du bon sens, c'est clair, mais est-ce qu'ils n'auraient pas pu crier à Dieu en disant « Seigneur, interviens, fais quelque chose ?» Mais Dieu avait déjà prévu la solution, on vient de le lire. Vous croyez pas qu'au moment où ils étaient en train d'avoir cette faim dans le cœur, ils criaient à Dieu et Dieu allait leur faire connaître qu'ils allaient être bientôt nourris? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était trop demandé à Dieu? Je crois que Dieu préférait qu'on lui demande quelque chose plutôt que de voir un enfant mourir. Hein. Et s'il avait fait, je suis persuadé, s'ils étaient allés voir le prophète, voilà, Élisée, on n'en peut plus, est-ce que tu as une parole du Seigneur? Oui, vous inquiétez pas, Élisée, il avait la parole. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas fait ça. Elles ont voulu réfléchir, se débrouiller avec leurs moyens humains. Frères et sœurs, une des murailles qui nous prive de la bénédiction de Dieu, c'est quand on veut construire les choses de manière humaine, charnelle. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, c'est ce qu'on a lu. Il est là le lien. Et si on veut bâtir notre vie avec des choses humaines et charnelles, si on veut réfléchir et essayer de s'en sortir par nos propres moyens, eh ben, ça ne fonctionne pas. Ça nous bâtit des murs qui nous privent de la bénédiction de Dieu. Et ça nous amène parfois à sacrifier des choses importantes dans nos vies. Ça nous amène à prendre des décisions et à sacrifier des choses que Dieu nous demande même pas de sacrifier. Et on se prive nous-mêmes de certaines grâces. La grâce d'avoir un enfant, c'est les enfants, comme je le dis souvent, c'est nos trésors, c'est nos richesses. Les enfants, c'est nos vraies richesses. C'est notre vrai héritage. C'est un héritage qu'on pourra amener dans le ciel, nos enfants. Si on leur confie, si on leur transmet notre foi et qu'ils choisissent de l'accepter, ils seront avec nous dans le ciel. C'est pas merveilleux, ça? Votre compte en banque, il va rester sur terre. Mais vos enfants pourront monter au ciel s'ils ont la foi. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et pourtant, des personnes en sont arrivées à cela. Alors, bien sûr qu'aujourd'hui, les gens qui mangent leur enfant, c'est pas monnaie courante, quoique on est dans une époque, aujourd'hui on voit de tout. Hein. Mais on voit des personnes qui sacrifient leur famille, qui sacrifient leur couple pour toutes sortes de raisons, de raisonnements humains. Ils font passer leur travail, ils font passer leur envie, ils font passer leurs loisirs avant leur famille. Et le résultat, c'est quasiment le même que celui-là. Ça bâtit une muraille qui nous prive de la bénédiction de Dieu. Et le Seigneur nous invite à ne pas sacrifier ce que nous aimons, mais à prendre du temps pour ceux que nous aimons. Lui nous aime et il prend du temps pour nous. Et toutes les fois où on crie vers lui, il est là, il nous écoute. Mais prenons du temps. Prenons du temps pour prendre soin de ce que Dieu nous a confié. Et sortons de nos murs d'égoïsme, nos murs de notre propre confort. Est-ce que une maman normale à peu près, elle aurait pas préféré mourir et donner sa chair à manger à son enfant plutôt que l'inverse? Vous avez vu le raisonnement qu'ils ont eu? Je vais manger mon enfant, comme ça moi je vais vivre. Normalement, c'est l'inverse. Hein. On veut que notre enfant survive. Nous survive. Non? Ou il y a que moi? Parce que vous me regardez bizarrement. Bon, je sais que vous êtes d'accord. Mais l'égoïsme, c'est quelque chose qui bâtit une muraille qui nous prive de la bénédiction de Dieu. Il y a le fait aussi d'être pas en communion avec Dieu, ça nous amène à avoir des réflexions particulières. On voit le roi, que la Bible décrit comme un fils d'assassin, c'est le prophète qui dit ça. C'était le fils de qui d'ailleurs? Est-ce que vous savez c'était le fils de qui ce roi? C'est le fils à Akab. Akab, c'est un gars qui a fait tuer quelqu'un d'autre parce qu'il simplement il voulait une vigne qui lui plaisait. C'était le roi. Il voulait une vigne qui lui plaisait, mais comme le monsieur en question n'a pas voulu vendre, il a fait tuer. C'est pour ça qu'il dit que c'est un meurtrier. Et lui, il est le fils de son père. Ça veut dire qu'il a les mêmes caractéristiques. Il a les mêmes façons de faire. C'est pas quelqu'un qui est rempli de compassion pour les autres. C'est quelqu'un qui veut s'approprier ce qu'il y a aux autres si ça lui plaît. Alors, vous savez qu'on n'a pas besoin de donner un coup de couteau à quelqu'un pour être un meurtrier selon la parole de Dieu. Parce que quand on a des pensées méchantes contre quelqu'un, la Bible nous dit qu'on déjà on est meurtrier. C'est Jésus qui le rappelle sur le serment sur la montagne. Parce que quand le Seigneur il nous considère, il voit notre cœur, il voit ce qui se passe. Et alors, combien on a besoin de laisser le Seigneur nous remplir de son amour et de sa grâce. Et vous avez vu comment est-ce qu'il réagit cet homme? Donc quand on lit les rois, on s'aperçoit qu'il y a une description. Certains, ils ont suivi le Seigneur, ils ont fait ce qui plaît à Dieu comme l'a fait David. Et puis d'autres, il est dit, ils ont fait le mal. Et lui, ben c'était ça. Il a fait le mal comme son père Akab. Il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et puis il attribue ses malheurs à l'Éternel. Voici ce mal vient de l'Éternel. Frères et sœurs, est-ce que quand il y a une situation difficile, vous dites, vous levez le poing contre le ciel en disant, Seigneur, c'est ta faute ce qui m'arrive. C'était la façon d'agir de cet homme. Parfois, on est à la limite, on va dire. On lève pas le poing, mais on dit, Seigneur, est-ce que c'est toi qui as permis? Et parfois, on a ces doutes qui viennent. Mais attribuer ces malheurs au Seigneur, ça ne construit pas des bonnes choses, ça fait partie de ces murs qui nous bloquent de la présence de Dieu. Et il s'est dit, j'ai trouvé la solution, je vais aller tuer le prophète, ça sera réglé. Est-ce que vous pensez que en décapitant Élisée, eh ben la situation allait être réglée? Qu'est-ce que vous en pensez? Juste en réfléchissant un peu, c'est pas en tuant le prophète, qui plus est. Je suis sûr que si Dieu a permis que la ville soit bénie par la suite, c'est parce qu'il y avait le prophète au milieu de la ville. Et vous savez, frères et sœurs, que quand il y a des enfants de Dieu dans un endroit, Dieu est capable de bénir toute une sorte de personnes qui sont autour de ces enfants, parce que ils amènent la grâce. Parce que Élisée était posté dans la ville, Élisée, il était en communion avec Dieu, il savait ce qui allait se passer, il aurait pu aller ailleurs, mais il savait que sa présence allait déterminer la bénédiction pour les autres aussi. Et combien c'est important de réaliser qu'on a une responsabilité de bénédiction pour les autres. Je veux être dans un endroit, dans une ville, dans un village, où ma présence apporte la bénédiction, sans faire d'efforts particuliers, hein, c'est juste parce que le Saint-Esprit habite en moi, mais qu'il y a une grâce qui m'accompagne. Et c'était la réalisation que l'on voit dans ce passage, c'est ce qui se passait, et bien sûr que le fait de décapiter Élisée, c'était pas du tout la solution. Alors, des fois, il y a des personnes qui ont le ministère de décapitation des têtes. Celui-là, il m'a fait du mal, alors il faut qu'on l'éjecte de l'église. Ça, c'est pas la façon d'agir du Seigneur. Bien au contraire, on a besoin que le Seigneur nous remplisse de son amour, qu'il nous donne son regard. Seigneur, il est capable de regarder n'importe quel homme sur la terre, et il est rempli d'amour. Oh, moi, quand je suis dans la présence de Dieu et que j'imagine que je suis en train dans un face-à-face avec le Seigneur et de regarder dans le regard du Seigneur. Un jour, ça sera en réalité, dans le ciel, on pourra être face-à-face avec Dieu. Mais spirituellement parlant, c'est possible aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Ben, on sent un amour. Quand on considère le Seigneur, on sent un amour, on sent un amour puissant, un amour qui renverse tout, un amour qui est capable de changer n'importe quelle situation. Et quand on le regarde assez longtemps, mais cet amour, il nous pénètre et il se déverse autour de nous. Ce qui fait que quand quelqu'un vient, dans quelle que soit la situation, même s'il y a des choses graves qui se sont passées, il y a toujours dans notre cœur un amour. Parce que c'est comme ça que le Seigneur nous considère. Ça vous satisfait? Vous êtes heureux de savoir que le Seigneur vous regarde avec amour? Moi, ça me touche à chaque fois que je réalise ça. Mais plutôt que d'essayer de régler les situations avec nos moyens à nous et de s'apercevoir que ça sert à rien, comme le fait ce roi, soyons plutôt des personnes obéissantes à la parole de Dieu. Tout simplement, pourquoi est-ce que le roi voulait tuer Élisée? C'est parce que le discours qu'il disait, il lui plaisait pas. Tu es un roi qui fait le mal, il faut que tu te repentes. La repentance, ça nous plaît pas aujourd'hui, mais c'est le seul moyen. Le seul moyen de bénédiction, ce matin, je veux rappeler avec force que le seul moyen de bénédiction dans la vie de quelqu'un, c'est la repentance et la conversion. La vraie bénédiction, la muraille va s'écrouler, n'importe quelle muraille peut s'écrouler si quelqu'un se repent, si quelqu'un demande pardon. Quelle que soit la difficulté, et il peut y avoir des choses difficiles. J'écoutais un témoignage hier soir, on me rappelait un témoignage, et c'est vrai que ça m'a rappelé une personne que j'ai vue, c'était lors du dernier rassemblement de jeunesse, c'était le 1er novembre, j'ai eu la joie de revoir une jeune fille. Une jeune fille, en fait, c'est une jeune fille dont j'ai entendu parler quand j'étais à Montauban, que je m'occupais déjà pendant quelques temps à Montauban. Mais cette jeune fille, quand j'étais à Montauban, elle n'y était pas. Simplement, je savais qu'il fallait qu'on prie pour elle. C'est un sujet qui revenait récurrent, récurrent, récurrent. Et surtout, je connaissais les parents de cette jeune fille. Cette jeune fille, à l'âge de 16 ans, elle est partie de la maison. À l'âge de 16 ans, elle a dit « je veux faire ma vie ». Ses parents, ils aiment le Seigneur, ils ont la foi, ils priaient pour leurs enfants. Mais cette jeune fille, à 16 ans, elle a dit « j'ai envie de faire ce que je veux. Je veux goûter à la vraie vie, comme on peut entendre ». Et elle est partie dans le monde, et elle a commencé à toucher à plein de choses. Elle a fréquenté des gens pas peu fréquentables, elle a eu des mauvaises influences, elle est tombée dans la drogue, elle est tombée dans même la drogue dure, dans l'héroïne. Et elle était dans un mal-être parce qu'elle savait, elle connaissait la vérité, elle avait entendu ça, elle était bercée dans la parole de Dieu, mais elle vivait la vie à l'opposé. Et dans ces milieux-là, elle a commencé même à considérer avoir des pensées d'homosexualité et à tomber même dans le péché d'homosexualité. Elle est jusque ça. Et elle disait très clairement, dans son témoignage, elle racontait très clairement que elle n'était pas née comme ça, mais ce sont des pensées qui sont venues alors qu'elle s'est éloignée de Dieu. Aujourd'hui, on nous fait croire que les gens naissent avec une mentalité, peut-être pas forcément qui va avec le corps, mais ça, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité de la parole de Dieu, en tout cas. Ça peut être des théories qui sont formulées, mais c'est pas la vérité de la parole de Dieu. Et cette jeune fille, elle est tombée dans toutes ces choses. Et elle a continué. Un jour même, son père a dû faire des milliers de kilomètres jusqu'en Belgique pour la récupérer en piteux état parce qu'elle a appelé au secours à ce moment-là, à cause des choix. Et son père, toujours dans la foi, ses parents priaient pendant des dizaines d'années, ils ont prié. Mais vous savez que la prière, ça vaut la peine ? Je ne sais pas si vous en êtes persuadé, mais je peux vous dire que la prière, ça vaut la peine. Des fois, on ne le réalise pas vraiment, mais la puissance de la prière, ça permet de changer les situations. Parce que quand on synchronise notre amour avec l'amour de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Et la prière, ça permet de faire ça. Les parents priaient pour cette jeune fille. Un jour, elle a pris un médicament parce qu'elle avait aussi des soucis de santé. Plein de choses se sont greffées. Mais en même temps, avec l'héroïne et tout ça, les médicaments ont fait un boom dans son corps. Elle a été aux portes de la mort avec un œdème cérébral. Les docteurs l'ont dit, vous allez mettre des mois. C'est même pas sûr que vous en remettiez, mais sinon ça va prendre des mois. Et dans son malheur, sur son lit d'hôpital, cette jeune fille qui était aux portes de la mort, elle a crié à Dieu. Elle a dit, Seigneur, au secours. Et qu'est-ce qu'a fait le Seigneur à votre avis? Ben, il fait ce qu'il fait d'habitude. Quand on crie à lui de tout notre cœur, il est venu. Et en 3 jours, alors qu'elle devait mettre 6 mois à se remettre, en 3 jours, elle n'avait plus rien. Totalement guérie. Non seulement guérie physiquement, mais spirituellement, moralement, elle a commencé à se reconsidérer comme une femme normale. Et je peux vous dire, je l'ai vu avant, je l'ai vu après, il y a même une transformation physique qui s'est opérée en elle. Et quand on la voit, on voit une jeune fille qui aime le Seigneur. Une jeune fille qui sait d'où c'est qu'elle vient. Une jeune fille qui avait bâti des murs d'incrédulité, des murs de rejet, de tout ce qu'elle avait entendu et qui s'est enfoncée. Mais le jour où elle a crié à Dieu, le jour où elle s'est repentie, les murs se sont écroulés, la grâce de Dieu l'a envahie, est venue avec abondance et sa vie a été changée. Est-ce que ça vous intéresse pas ce programme? Moi ça m'intéresse. Parce que il faut pas attendre d'être au plus bas pour crier à Dieu. Mais dans nos petits problèmes, nos petites murailles à nous, ben c'est pareil. Seigneur, je veux te demander pardon. La puissance de Dieu se manifeste proportionnellement à la force dont on s'abaisse. Celui qui s'abaisse sera élevé. C'est la parole de Dieu qui le dit. Celui qui se repent avec force, avec profondeur, qui crie à Dieu, sera béni. C'est aussi simple que ça. Le roi, il prenait pas le bon chemin. Mais Élisée était cet homme de Dieu qui avait choisi de mettre sa confiance. Il était en communion avec Dieu. Le roi de Juda, un autre roi de Juda à ce moment-là, c'est le roi Josaphat. Lui, il avait une bonne connaissance de Dieu. Et quand il parle d'Élisée, il dit « La parole de l'Éternel est avec lui ». Est-ce que vous êtes connus comme des personnes qui ont la parole de l'Éternel avec eux? C'est important ça. Quand on nous pose des questions, est-ce qu'on dit les choses « voilà, je pense que, j'imagine que » ou alors « la Bible dit que » Ça change tout, hein. Parce que l'autorité vient pas de mes pensées, l'autorité vient de la parole de Dieu. Élisée était un homme dont la parole de l'Éternel était avec lui. Et il sait à l'avance, il est en communion avec Dieu, il connaît. Dieu peut révéler parfois les projets, les façons dont il va bénir à des personnes qui sont en communion avec lui. Est-ce que Élisée savait, il était tous les jours sur le marché, à la bourse, en train de noter la hausse et la baisse de la tête d'âne ou de la fiente de pigeon? Est-ce que c'est ça? Est-ce que il était un fan de la bourse? Comment on appelle ça, là, les métiers de ceux qui savaient? Les traders, voilà. Est-ce que Élisée, c'était un fameux trader, c'est pour ça qu'il était au courant? Mais non, rien à voir. Je suis sûr que même il y connaissait rien. Par contre, il avait un Dieu qui connaît tout. Et par révélation, simplement dans sa maison, ben voilà, demain c'est bon, vous inquiétez pas, demain il y aura de la farine, demain il y aura du blé, il y aura tout ce qu'il faut pour manger, et ça sera pas cher. Est-ce que vous préférez la tête d'âne, la fiente de pigeon ou le blé? Bon, on va peut-être attendre un jour et voir ça, hein. Mais quelle grâce de savoir qu'au milieu de la famine, cet homme, l'œil de l'Éternel était sur cet homme, au milieu de la famine. Et est-ce que vous pensez qu'Élisée était tremblant, était affolé dans l'inquiétude? Ben non, il savait que Dieu l'a promis. Vous savez, même quand on est dans la situation compliquée, que les murs sont encore là, on peut être dans la paix totale, parce qu'on sait qu'on a un Dieu qui va agir. Vous avez des situations qui ressemblent à de la famine? Je ne parle pas de la famine physique, bien sûr, parce qu'en France, on est dans l'inverse, on est dans les excès. au niveau du repas, mais des situations où on est en famine d'affection, des famines, parce que ça fait des mois et des mois qu'on cherche un travail et qu'on n'arrive pas à le trouver, des mois et des mois qu'une situation bloque et on n'arrive pas à la résoudre, c'est comme une famine. Mais au milieu de la famine, on peut avoir une parole de Dieu qui me le calme. La parole de Dieu, c'est la seule qui est capable de calmer notre cœur. Vous connaissez le psaume 23 ? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer près de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit près des eaux paisibles. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Si ce n'est ce temps que l'on passe devant Dieu. Les verts pâturages, ils sont là, hein ? C'est la parole qui nous donne cette saine nourriture. Les eaux paisibles de sa présence. Allez, je vous dis pas qu'il faut pas y aller, mais allez parler à un psychiatre pendant une heure et puis passer une heure dans la présence de Dieu. Le psychiatre peut vous aider à comprendre certaines choses, d'accord ? Mais la présence de Dieu est incomparable parce qu'elle pénètre jusqu'au fond de nos entrailles et est capable de changer des choses que même le psychiatre le meilleur de ce monde ne pourra jamais voir. Parce que le meilleur de tous les psychiatres et de tous les psychologues, c'est celui qui a créé la psyché, l'âme, c'est-à-dire Dieu. Et combien on a intérêt à passer du temps devant Dieu, comme Élisée. Élisée dans la famine, il est connecté à son Seigneur. Il est connecté et il est dans la paix. Il est près des eaux paisibles et son cœur est abreuvé. Et les murs de sa Marie, pour lui, ils n'existent pas. Pour Élisée, il est déjà dans la bénédiction par avance. Parce qu'il a la foi dans son Seigneur. Un homme se moque. Un homme est incrédule. Un homme commence à dire, mais si Dieu faisait des fenêtres au ciel, est-ce que ça arriverait cela? Si le ciel même, les greniers du ciel étaient ouverts, est-ce que ça pourrait arriver? Il se moque de Dieu, tout simplement. Mais vous avez vu comment il a fini ce monsieur? On se moque pas de Dieu pour rien. Hein. Faut faire attention, frères et sœurs. Faut faire attention. Bien sûr, ça concerne des personnes qui sont dans l'incrédulité, le rejet de Dieu total, mais attention à nos paroles. Combien d'hommes ont dit des choses contre Dieu, se sont moqués et se sont retrouvés, certains même jusqu'à la mort, dans des situations qui les ont conduits dans la mort. Et cet homme, c'est la réalité. Dans la situation difficile, n'imitons pas leur exemple d'incrédulité. « Oh, le Seigneur a dit ça, mais je pense que ça ne va pas du tout se passer. » Non, non. « Seigneur, j'ai du mal à croire. Viens au secours de mon incrédulité, a dit quelqu'un d'autre. » Mais c'est comme ça qu'il faut réagir. « Seigneur, oui, c'est pas évident, mais aide-moi à avoir la foi. » Et le Seigneur va le faire. Et puis, il y a les quatre lépreux qui s'étaient dit, par résignation, soit on va dans la ville, on meurt de famine, soit on reste là, on meurt de toute façon, soit on va dans le camp des Syriens. Peut-être qu'on a une chance de vivre, mais c'est même pas sûr. Mais au pire, ça sera réglé. Vous savez, des fois, la résignation nous amène à des décisions bizarres. Sauf que Dieu a choisi de bénir les personnes qui sont sorties de leur mur. Les personnes qui ont choisi de dire « on veut sortir de cette situation ». Et je peux vous dire, frères et sœurs, que le Seigneur veut bénir ce matin des personnes qui vont dire la même chose. Oui, il y a des murs. Oui, il y a une famine. Oui, il y a quelque chose de difficile. Mais je veux sortir de ça. Ils n'avaient pas les bons arguments. Ils connaissaient pas grand-chose. Ils étaient lépreux, donc ils étaient souillés. Mais ils avaient un désir de sortir. Et c'est par eux que le Seigneur a béni. Vous avez remarqué ça ? Dieu va bénir la personne qui va dire « je veux sortir de ma situation ». C'est pour ça que Jésus, face à l'aveugle, lui dit « Bartimée, mais que veux-tu que je te fasse ?» Mais ça paraît évident. Il est aveugle. « Que veux-tu que je te fasse ?» Mais oui, mais des fois, on n'est pas conscient de notre propre besoin. Et Bartimée l'a dit « Mais Seigneur, que je recouvre la vue. » Ces hommes, ils avaient compris que la solution, elle était hors des murailles. On a besoin de laisser le Saint-Esprit faire prendre possession de nos vies et abattre dans nos cœurs, dans nos esprits, les murailles qui sont là, qui nous privent de la bénédiction de Dieu. L'Éternel connaît le jour des hommes intègres et des femmes intègres. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. C'est la Bible qui le dit. Est-ce que vous croyez que la Bible est la parole de Dieu ? Est-ce que vous croyez que ces promesses que nous rappelons, ce sont les paroles de Dieu ? Je le crois profondément. Et je crois que non seulement que ce sont des paroles de Dieu, mais je crois que ce sont des paroles de Dieu pour nous ce matin. Si par la foi nous nous accrochons à cette parole, Seigneur, je suis dans la famille, je suis dans la disette, il y a des murailles autour de moi, mais tu peux abattre tout cela et me donner la bénédiction. Et ce peuple qui était dans des situations compliquées, sont sortis et ont vu tout autour des vivres, des vêtements, des trésors, des richesses. Ils ne pouvaient même pas imaginer tout ce qu'il y avait. Il y en avait beaucoup plus que ce qu'ils pensaient. Dieu fait infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Même pas besoin de combattre l'ennemi, même pas besoin de sortir une épée, c'était déjà combattu. Pourquoi ? Parce que Dieu avait fait le travail. Dieu n'a-t-il pas déjà combattu l'ennemi de nos âmes ? Ben oui. C'est ce que nous allons nous rappeler encore au travers de ce repas. À la croix, Jésus a vaincu. Jésus a remporté la victoire sur le diable. La croix, ce n'est pas la défaite de Jésus. La croix, c'est la victoire toute puissante du Seigneur Jésus sur le péché, sur la mort, sur le diable, sur l'enfer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui crie à lui de tout son cœur, qui demande « Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait du mal, j'ai fait du tort », eh bien, le Seigneur est capable de briser les murailles et de combattre l'ennemi dans sa vie. Oui, il y a des ennemis. Oui, il y a des situations compliquées. Mais il y a un Dieu tout-puissant qui veut nous secourir. Je voudrais qu'on incline les yeux, les têtes, pardon, et qu'on ferme les yeux. Et je voudrais qu'on puisse considérer l'œuvre de la croix. Mon frère, ma sœur, mon ami qui est là ce matin, la seule solution pour toi, je le dis très solennellement de la part du Seigneur, la seule solution pour toi, ce n'est pas une solution humaine. C'est que tu te repentes devant ton Dieu et que tu te convertisses, tu choisisses de le suivre, lui, que tu choisisses de mettre en pratique sa parole. C'est la seule solution qui permet que tes murailles vont tomber. Comme cette jeune fille, prise par toutes sortes de choses, par l'homosexualité, par l'héroïne, prise par les fêtes excessives, et qui tous les jours, quand elle réfléchissait à son sort, elle pleurait parce qu'elle était en train de briser le cœur de ses parents. Mais un jour, elle a crié à Dieu en se repentant, et le Seigneur a fait voler en éclats tout ce que l'ennemi avait bâti sur sa vie. Le Seigneur veut faire de même pour toi, mon frère, ma sœur. Et la question qui se pose, c'est est-ce que tu vas accepter de goûter à la bénédiction de Dieu ? Je vais inviter le Silas et André, si vous voulez bien, préparer ce repas de la Sainte-Cène. Et je voudrais qu'on puisse chanter un chant qui va l'opposé de ce que cet homme a dit. Si Dieu faisait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ? Mais je peux vous dire que le ciel a ouvert ses fenêtres, c'est ce chant qui nous le dit. Pour nous, pécheurs de la terre. C'est un chant un petit peu ancien qu'on connaît bien, mais chantons-le de tout notre cœur, en réalisant que le ciel a été ouvert le jour où Jésus a donné sa vie sur la croix.